Les cours du Collège de France, civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin.
Nous avons jusqu'à présent surtout navigué dans les sphères de la politique, de l'administration et de l'économie. Aujourd'hui, nous allons parler de religion. Ma première année de cours ici même avait été consacrée à une approche fonctionnelle des temples mésopotamiens. Il n'y fut guère question de Marie. Certes, l'archéologie y a découvert de nombreux temples, mais ils datent pour la plupart du troisième millénaire et n'ont pratiquement pas livré de textes. Le seul temple qui ait été fouillé pour notre période était voué au dieu Shamash, le dieu soleil, dieu de la justice, mais il a été retrouvé complètement érodé, de sorte que seules ses fondations ont survécu, et c'est là qu'on a découvert les fameuses briques avec l'inscription du roi Yardoudlim. Sans parler des chapelles d'Ishtar et de Benet et Kalim à l'intérieur du palais, les temples majeurs de Marie étaient ceux du dieu principal de la ville, Itourmer, ou encore de la déesse Anunitum, mais nous ne les connaissons qu'à travers de trop rares allusions dans les archives du palais. Je voudrais d'abord m'intéresser aux responsables des temples et dresser le portrait de l'un d'eux nommé Idinsin. Nous examinerons ensuite le rôle des prophètes en s'intéressant particulièrement à deux d'entre eux, Louparum et Atamrum, et nous finirons par l'étude des devins, ce qui nous donnera l'occasion de reconstituer la mission qui conduisit le devin Eribsin à des centaines de kilomètres de Marie. Qu'est-ce qu'un prêtre en Mésopotamie ? Il s'agit là d'une notion occidentale qu'il est délicat de transposer dans une civilisation aussi éloignée et différente. Et le premier mot qui pose problème, c'est celui de Shangoum, en babylonien, qu'on rencontre le plus souvent sous la forme de l'idéogramme sumérien Sanga. On l'a traduit pendant longtemps par grand prêtre, mais ce terme a des connotations avant tout bibliques, désignant Aaron et ses successeurs. Le dictionnaire de Chicago a retenu comme définition principal administrateur d'un temple. En Mésopotamie, à l'époque paléo-babylonienne, le Shangoum était en effet l'individu le plus haut placé dans la hiérarchie du personnel d'un temple. Certains sont relativement bien connus, comme Abizoum, qui était le Shangoum du temple de la déesse Kititoum à Ishali, l'antique Nereptoum, dans le royaume d'Eshnouna, sous les règnes de Dadusha et Ibalpiel II, donc à la même époque que Zimrilim. Il faut en convenir, les données des archives du palais de Marie relatives au personnel des temples sont des plus réduites et cela s'explique. Nous ne disposons pas d'archives retrouvées dans un temple, ni d'archives familiales conservées dans des maisons. La charge de Shangoum n'est connue en tant que telle que par une lettre d'Ishmedagan à son frère Yasmaradou, qui fait allusion à un certain Ushtab-Kirish, déporté à Marie, qu'il traite d'idiot, et il ajoute « Il a exercé la charge Shangoutoum d'Ishtar de Shinamoum, et il y a de l'argent à sa disposition. » Par ailleurs, une lettre de Sipar fait allusion à la taxe Igisoum, due au titre des charges de Shangoum et de lamentateur Kaloum. Mais dans les listes équivalentes à Marie, pour l'instant, aucun Shangoum n'a été repéré. À Marie comme ailleurs, les Shangoum étaient responsables des trésors des temples. En témoigne ce petit texte comptable du temps de Yasmaradou, je cite, « 18 cycles et demi d'argent, poids de 5 bijoux kouliloum, qui ont été placés pour la poitrine de la déesse, 13 cycles d'or qui ont été placés dans un coffre, confié à Abdi Erar, le Shangoum, par l'intermédiaire de 4 personnes, et on a ensuite la date. » Du point de vue religieux, l'un des rares textes disponibles à Marie qui mentionne la participation d'un Shangoum à une cérémonie, c'est le fameux rituel d'Ishtar, mais l'intervention du Shangoum y reste très limitée. Une lettre publiée par Jean-Marie Durand provoque une grande surprise car il s'agit du premier et jusqu'à présent du seul document qui nous montre une organisation hiérarchique des responsables des temples. On assiste à une sorte de compétition pour savoir qui sera installé à la charge de chef des Shangoum. Voici cette lettre. « Dis à Monseigneur, ainsi parle Itourazdou, ton serviteur. Monseigneur m'a donné les instructions suivantes en ce qui concerne Puzur Mamma et Idinsin, le prêtre Shangoum. Place Puzur Mamma à la charge de chef des Shangoum des temples. Sinon, Idinsin n'a qu'à verser tout l'argent qu'a offert Puzur Mamma et retourner à sa charge. Voilà les instructions que Monseigneur m'avait données. Tous les prêtres Shangoum se sont rassemblés et Puzur Mamma a dit ceci. Je veux bien peser une demi-mine d'argent pour être placé au poste de chef des prêtres Shangoum. Voilà ce qu'a dit Puzur Mamma. Alors Idinsin a répondu ceci. Je veux bien peser un tiers de mine d'argent pour revenir à ma charge. Alors les prêtres Shangoum ont dit « Si Idinsin paye le double d'argent et qu'il donne ainsi la totalité de l'argent du temple de la déesse qui a été perdu, il peut revenir à son office. Sinon, nous négligerons nos gardes des temples et l'argent sera perdu. » Voilà ce qu'ils m'ont répondu. « J'ai donc installé Puzur Mamma, » continue Itourazdou. « Présentement, voilà qu'Idinsin est parti chez Monseigneur. » Monseigneur doit enquêter sur son affaire. La ville de Marie et le palais, ça va. » Jean-Marie Durand a commenté ce texte ainsi. La charge avait donc été mise aux enchères et elle était apparemment vénale. Chacun des postulants avait ainsi fait sa propre proposition. Ce que dit Puzur Mamma est parallèle aux propos tenus par les postulants à la fonction de chair lorsqu'ils font une offre chiffrée contre l'octroi du poste. Devenir chef des Shangoum ressemblait donc à l'accession à une charge de responsabilité administrative, comme gouverneur ou cheikh. Il fallait alors acquitter une taxe d'entrée en fonction, la chapitoutoum ou la sugagoutoum, quoique pour l'heure le terme de Shangoum ne nous soit pas encore attesté dans un tel sens. Voilà donc un autre parallèle entre l'administration des biens sacrés et celle du domaine royal. Que le chef des Shangoum soit nommé par décision royale n'est qu'un indice qu'il en était de même pour les simples Shangoum, mais un indice d'une haute probabilité. On peut sans doute se représenter par la sorte de ferme à la tête de laquelle se trouvait le chef des Shangoum, ce qui se passait au moindre niveau, celui des temples particuliers. J'avoue ne pas partager totalement ce point de vue. D'abord parce que je ne crois pas que la sugagoutoum ou la chapitoutoum soient des taxes d'entrée en fonction. Il me semble avoir démontré qu'il s'agit de redevances annuelles. Ensuite, parce que la lettre ARM 33-245 parle d'argent qui risque d'être définitivement perdu. Il me semble donc plutôt qu'Idinsin avait commis une erreur de gestion qui a entraîné une perte de 2/3 de mine d'argent. Puzur Mamma est prêt à en compenser une demi-mine sur ses fonds propres, alors que Idinsin renâcle et se limite à la moitié de la perte. Le roi a décidé de démettre ce dernier, sauf s'il double son offre. Quoi qu'il en soit de ce débat, la lettre a le grand intérêt de montrer que les administrateurs des temples, les Shangoum, avaient un chef à leur tête. Une des responsabilités du chef des Shangoum, c'était de fixer le calendrier religieux, comme le montre cette lettre de notre Idinsin. Je cite « Lorsque Monseigneur s'est mis en route, voici ce que j'ai dit à Monseigneur. Quel est ce mois-ci ? Monseigneur m'a répondu ceci. Ce mois-ci est Eburum. Donc, le mois présent est le mois d'Urahum. Ce 18, le pays se trouvera purifié. Le 22, entrera. Le 24, au petit matin, les sortiront. Le 26, à cet endroit, la déesse Ishtar sortira vers le marché. Le 28, le chariot du dieu Dagan ira au Haddatum. Que Monseigneur m'écrive ce qu'il doit en être. » Cette lettre, lue hors contexte, n'est pas d'une compréhension très aisée. On se demande, mais pourquoi Idinsigne ignore-t-il le nom du moi ? Et il est peu plausible que nous ayons affaire au plus ancien témoignage de la maladie d'Alzheimer. La suite de sa lettre montre le souci d'Idinsigne que les différents rituels soient accomplis au bon moment. C'est clair, même si le détail de chacun de ces rituels nous échappe. Jean-Marie Durand a donc proposé de situer cette missive au tout début du règne de Zimri-Lim. Elle témoignerait du passage du calendrier en vigueur sous Yasmaradou à celui que Zimri-Lim souhaitait réintroduire. Et nous retiendrons donc ce point très important. Le chef des Shangoum était responsable du calendrier religieux et de l'accomplissement des différents rituels au moment approprié. Plus tard, dans le règne de Zimri-Lim, on voit d'ailleurs Idinsigne intervenir dans des livraisons d'huile pour les déesses d'Iritum et Anunitum lors des fêtes du Lahrum. Parmi les rares informations que nous ayons à propos des Shangoum, figure cette lettre de la reine-mère Adudouri que nous avons déjà lue lors du troisième cours. Idinili, Shangoum du dieu Itourmer, a eu un rêve. Il a dit « Dans mon rêve, la déesse Belet-Biri se tenait debout et disait ceci. Voici ses paroles. « La royauté est son moule à briques et la dynastie sa muraille. Pourquoi ne cesse-t-il de monter au créneau ? Il lui faut se protéger. » Et Adudouri reprend la parole. « Maintenant, Monseigneur doit mettre tout son soin à protéger sa personne. » Vous vous rappelez sans doute que j'avais mis l'accent sur le souci de Adudouri pour son fils parti guerroyer. Mais aujourd'hui, je soulignerai le fait que le rêve à valeur nominale qu'elle rapportait à Zimri-Lim avait été vu par un personnage religieux très important, puisqu'il s'agit du Shangoum, du dieu Itourmer, la divinité principale de la ville de Mari. Mais autrement, nous nous situons dans une pratique tout à fait courante. Toute personne qui avait vu un rêve relatif au roi était supposée le lui faire connaître, sauf exception. Les Shangoum transmettaient aussi les prophéties qui pouvaient être émises par différents individus dans l'enceinte du temple dont ils étaient responsables. Et là, nous allons commencer par sortir de Mari. En effet, un cas très intéressant provient du royaume d'Eshnouna. On a retrouvé dans les archives du temple de Kititum à Nereptum deux documents qui transcrivent des prophéties de cette déesse concernant le roi Ibalpiel. Comme l'avait justement souligné William Moran, il ne s'agit pas de lettres, mais de prophéties mises par écrit et pourvues d'une annotation initiale indiquant le destinataire de la prophétie, le roi local. Ce sont les deux seuls cas que nous connaissions de transcription de prophéties effectuées dans un temple et archivées dans celui-ci. Alors, comme toujours, on n'a que ces deux exemples, donc on ne peut pas être sûr que c'était une pratique habituelle, mais il n'y a en revanche pas de raison d'imaginer que c'était quelque chose d'exceptionnel. C'est l'indice d'une attention systématique prêtée aux propos tenus par les différentes catégories de personnel susceptibles de prophétiser dans l'enceinte d'un temple. Et le caractère fondamentalement oral de la prophétie est souligné par la fin du message où la déesse Kititum dit au roi « Que ton attention, littéralement ton oreille, soit tournée vers moi ». On peut penser que le Shangoum du temple de Kititum avait agi de la même manière que son collègue du temple d'Anunitum à Mari. Celui-ci, qui se nommait Ahum, envoya à Zimri-Lim une lettre dans laquelle il citait la prophétie d'une extatique Mukhutum. Alors l'affaire est compliquée par l'absence du roi. Zimri-Lim avait en effet quitté à ce moment-là sa capitale pour combattre la révolte des Benjaminites. Du coup, le gouverneur de Mari, Bardilim, envoya au roi la lettre du Shangoum Ahum avec un mot d'accompagnement. Dans ARM 26.1.213, c'est la reine Chiptou qui transmet au roi absent la prophétie d'un personnage qui a eu une transe dans le temple d'Anunitum. On ignore comment elle a été tenue au courant de cette prophétie, mais il est très probable que c'est le grand prêtre d'Anunitum qui l'en a informé. Dans un autre cas analogue, elle mentionne au contraire l'intervention du Shangum Ahum, et vu la formulation du texte, il paraît clair que celui-ci lui a rapporté la prophétie sous forme orale. Mais dans tous les cas, rien n'exclut que le Shangum d'Anunitum ait gardé une trace écrite de toutes ces prophéties. Inversement, on peut penser que le Shangum du temple de Kititum a informé le roi d'Eshnouna des prophéties le concernant, mais à ce moment-là, la lettre se trouve quelque part dans la capitale, Eshnouna, et les deux documents qu'on a retrouvés à Nereptum sont que des documents écrits antérieurement à l'éventuelle rédaction de telles lettres. Et donc, si l'utilisation combinée des témoignages de Nereptum et de Marie qu'on vient de faire est juste, on pourrait en conclure que les prophéties émises dans l'enceinte d'un temple étaient d'abord écoutées, puis mises par écrit pour être archivées par le grand prêtre Shangum, et ensuite on pouvait envoyer une tablette à la personne concernée, reproduisant les termes entendus dans la bouche du prophète, ou bien on pouvait se contenter de transmettre le contenu de la prophétie par oral, et donc on aboutit aux deux schémas possibles que vous pouvez voir à l'écran. Il faut ajouter un dernier élément, c'est que lorsqu'un prophète énonçait un message du dieu devant la statue de culte de celui-ci, eh bien l'audience de la prophétie était limitée aux personnes qui pouvaient pénétrer au cœur du temple, et cela explique sans doute le rôle crucial du Shangum dans la transmission des prophéties. J'en viens donc aux prophètes eux-mêmes. Pendant longtemps, on a cru que le prophétisme était un phénomène religieux propre à la Bible hébraïque. Marie a largement contribué à montrer que, dans ce domaine, comme dans bien d'autres, les pratiques attestées par la Bible s'enracinaient dans un contexte proche-oriental plus ancien. Il faut noter que, dans les textes de Marie, on a affaire à un personnel spécialisé. Il existait deux catégories, apilum, littéralement répondant, ou murchum, littéralement extatique, avec leur équivalent féminin, apiltum ou murchutum. On n'est plus le 8 mars, mais il y avait en effet des contreparties féminines, on avait féminisé ces deux noms dans la langue babylonienne. Si le terme de murchum est attesté en akkadien à d'autres périodes, en particulier à l'époque néo-assyrienne, en revanche, apilum est propre à la période paléo-babylonienne. Et la question est de savoir qu'est-ce qui différencie ces deux catégories. Ça n'est pas facile à établir. Ça n'est manifestement pas leur genre de vie. Les deux catégories sont rattachées au culte d'une divinité et généralement mentionnées en rapport avec un temple. Mais on constate généralement que les discours des apilum sont plus longs et surtout beaucoup plus élaborés que ceux des murchum. Des murchum, on nous dit souvent qu'ils crient ou qu'ils entrent en transe. Et souvent, ils se dressent devant la divinité lors d'un sacrifice et font une brève déclaration. Parfois, le murchum se livre à une gesticulation symbolique. On a par exemple un extatique de Dagan qui réclame au gouverneur de Sagaratum un agneau qui se tient à la grande porte et qui se met à dévorer la bête toute crue. Dévorer se dit akalum en babylonien et on a un mot dérivé, okultum, qui désigne la peste, et par ce geste, eh bien, il annonçait l'arrivée d'une peste si des biens sacrés qui avaient été volés n'étaient pas restitués. On voit d'ailleurs entrer en transe d'autres personnes que le murchum, comme la sinoum ou même de simples particuliers. Et donc ce trait rapproche ce genre de vaticination du statut, du rêve ou de la vision. De sorte que le seul véritable prophète professionnel, porte-parole officiel de la divinité, me semble être l'apilum. Et on va donc étudier deux Apilum successivement. Le premier se nommait Luparum. Il effectua une mission complexe au moment où Zimrilim songeait à conclure la paix avec Eshnouna. Et la mission qu'il effectua peut être très précisément datée du 7e jour du 8e mois de la 5e année de Zimrilim grâce à un texte économique, un cycle d'argent selon les poids du marché pour Luparum, le prophète Apilum du dieu Dagan, lorsqu'il est allé à Toutoul. Nous savons qu'à cette date, Zimrilim ne s'était pas encore engagé vis-à-vis du roi d'Eshnouna, alors que ce dernier avait déjà prêté un serment d'alliance. Ce Luparum arrive de Toutoul à Mari. Zimrilim n'est pas dans sa capitale, et c'est donc Sametar qui accueille Luparum et qui rend compte par lettre à Zimrilim de la mission du prophète. ARM 26.1.199 est reconstitué par deux morceaux jointifs. C'est un des plus beaux raccords que j'ai effectués dans ma carrière, mais c'est un texte effroyablement difficile. Jean-Marie Durand a changé plusieurs fois d'avis sur son interprétation, et donc je ne vais pas discuter toutes les interprétations possibles, je vous donne celle à laquelle actuellement je m'en tiens. Voici ce texte. « Dis à mon Seigneur, ainsi parle Sametar, ton serviteur. Luparum, prophète Apilum de Dagan, m'est arrivé de Toutoul. Il avait été porteur du message que mon Seigneur lui avait donné à Sagaratum, citation, « Fais la contre-épreuve en ce qui me concerne auprès du dieu Dagan de Terka. » Et voici ce qu'on lui a répondu, « Là où tu iras, le bonheur ne cessera de t'arriver. » Bélier et tour de siège te sont donnés, ils iront à tes côtés, ils seront tes compagnons. On lui avait déjà répondu ce message à Toutoul. J'interromps la citation. Si l'on comprend bien, cela signifie que Luparum, dans un premier temps, avait transmis un oracle de Dagan de Toutoul favorable à Zimrilim, mais le dieu Dagan avait plusieurs temples. Et donc, par prudence, Zimrilim a demandé à Luparum de vérifier que le dieu Dagan, dans son temple de Terka, était du même avis, et apparemment, Luparum a obtenu un présage de victoire identique. Je reprends la lecture du rapport de Sametar. À son arrivée de Toutoul, donc il s'agit de Luparum, je l'ai fait accompagner à Dir. Il a apporté à la déesse d'Iritum mon verrou. Auparavant, il avait apporté un chernoum, on ne sait pas ce que c'est un objet, disant « Le chernoum n'est pas fiable, les eaux l'ont mouillé, renforce le chernoum. » Maintenant, il a apporté mon verrou. Et voici le message dont il était porteur. « J'ai bien peur, ô Diritum, que tu n'aies confiance en la paix avec l'homme d'Eshnouna et que tu ne te relâches. Les gardes que tu as à monter doivent être plus fortes qu'auparavant. » Alors, dans les lignes 24 à 28, la personne à qui s'adresse le discours est au féminin. Et le plus vraisemblable, c'est qu'il s'agit d'un oracle du dieu Dagan destiné à la déesse d'Iritum. Et j'ai proposé que la suite, c'est-à-dire les lignes 30 à 39, constitue le commentaire de Luparum à Sametar qui explicite les oracles. Et à moi, Sametar, l'auteur de la lettre, il, c'est-à-dire Luparum, a parlé ainsi. « J'ai peur que le roi ne fasse un traité avec l'homme d'Eshnouna sans interroger le dieu. La situation est comme auparavant, lorsque les Benjaminites sont descendus et se sont installés à Sagaratum, et que j'ai dit au roi, ne fais pas d'alliance avec les Benjaminites, je les renverrai au milieu du dispersement de leur nid, et le fleuve leur portera le coup final pour toi. Maintenant, sans questionner le dieu, qu'il ne fasse pas d'accord. Voilà le message que Luparum m'a dit. » Et ensuite, le lendemain, une Kammatum de Dagan de Terka est venue me voir. Et elle m'a dit « Sous la paille coule l'eau. Il t'expédie message sur message pour cesser la guerre. Il t'envoie leur dieu, mais dans leur cœur, ils complotent une seconde traîtrise. Sans interroger le dieu, le roi ne doit pas faire d'accord. » Elle, donc la Kammatum, a réclamé un habit en étoffe ordinaire et une épingle de nez. Je les lui ai donnés. Or, elle avait indiqué sa mission dans le temple de Belet-Ekalim à la grande prêtresse Inibshina. J'ai envoyé chez Monseigneur un rapport concernant les paroles qu'ils m'ont dites, donc tous les deux, l'Uparum et la Kammatum. Il faut que Monseigneur réfléchisse et qu'il agisse conformément à sa toute-puissance. Et puis, la lettre continue avec une autre affaire. Et vous voyez, dans ce passage également, l'amalgame entre l'oracle proprement dit, que je situe des lignées 44 à 48, et le dieu s'adresse ici directement au roi à la deuxième personne, et puis le commentaire qui suit immédiatement, ligne 49, où vous voyez que le dieu et le roi sont à la troisième personne. Et donc, le système me semble identique à celui qu'on a vu tout à l'heure avec l'Uparum. Après la citation de l'oracle proprement dit, le prophète donne un commentaire. Et la comparaison, vous voyez que Sametar ici signale que la Kammatum avait délivré son message dans le temple de Belet-Ekalim à la grande prêtresse Inibshina. Eh bien, il se trouve que nous possédons la lettre que Inibshina a envoyée à Zimrilim. Le même message de la Kammatum de Dagan y a été reproduit, mais sous une forme un peu différente. Les ouvertures de paix du sire d'Eshnouna sont une duperie. Sous la paille coule l'eau. Et au filet qu'il noue, je le rassemblerai. Je détruirai sa ville, je ferai confisquer son trésor qui date des temps anciens. La comparaison des deux textes est très intéressante. On notera d'abord que Sametar précise que la Kammatum a rendu compte de son message à Inibshina dans le temple de Belet-Ekalim, alors que dans sa propre lettre, Inibshina dit simplement que la Kammatum est venue la trouver. Et si l'on compare les deux textes, le seul élément qui soit commun aux deux transcriptions du message de la Kammatum, c'est l'image « sous la paille coule l'eau ». Autrement dit, vous avez une surface sur laquelle vous croyez que vous pouvez marcher, mais si vous mettez le pied dessus, vous allez couler. Le reste du message est néanmoins différent. Or, il est sûr que les deux textes ont trait à la même affaire. Alors, comment expliquer des différences aussi importantes ? On a plusieurs explications possibles. Premièrement, le message prononcé par la Kammatum était identique dans les deux cas, mais les auditeurs en ont retenu des éléments complémentaires, ou bien les rédacteurs des lettres en ont extrait des éléments différents. Alternative, le message de la Kammatum était différent dans les deux cas, consistant en des variations autour d'un noyau commun, sous la paille coule l'eau. Donc on voit que ces deux textes sont très importants pour le problème de la mise par écrit des prophéties, mais qu'ils ne permettent pas d'avoir une réponse définitive, puisqu'on n'a pas ici le compte-rendu d'un même message. On voit en outre que l'affirmation traditionnelle, disant que les prophéties de Marie ne comportent jamais d'éléments négatifs, est à nuancer. Bien sûr, Dagan est du côté du roi et lui promet la victoire, mais dans ce contexte particulier, il met le roi en garde contre l'illusion de la conclusion de la paix. Et donc, le dieu ne cautionne pas la politique royale. Et nous connaissons la fin de l'affaire. Zimrilim n'écouta pas les injonctions de Dagan et il finit par conclure l'alliance. Nous avons conservé le texte du traité ainsi que des textes économiques qui attestent l'envoi de présents du roi de Marie au roi d'Eshnouna au mois 12 de la même année. Un autre portrait de prophète peut être dressé grâce à une lettre de Yassimel. Celui-ci était alors le général chargé des troupes envoyées par Zimrilim à Andarig dans le cadre de l'alliance qu'il avait conclue avec le roi local. La lettre du militaire commence par traiter différentes affaires et s'achève par un dernier sujet. Autre affaire. À Tamroum, le prophète Apiloum de Shamash est venu me trouver et m'a dit « Envoie-moi un scribe discret que je lui fasse écrire le message que Shamash m'a envoyé pour le roi. » Voilà ce qu'il m'a dit. « J'ai envoyé Utukam, et il a écrit cette tablette. Cet homme, c'est-à-dire Atamroum, le prophète, m'a suscité des témoins, et voici ce qu'il a dit. « Fais porter cette tablette rapidement, et qu'il, c'est-à-dire Zimrilim, agisse selon ce qui y est dit. » Voilà ce qu'il m'a dit. « Maintenant, je viens de faire porter chez Monseigneur cette tablette. » Eh bien, ce qui est à nouveau incroyable, c'est que cette tablette nous est aussi parvenue. Elle se présente comme une lettre du prophète Apiloum adressée à Zimrilim, mais après la première ligne, le reste est en fait une lettre du dieu Shamash. Elle est absolument extraordinaire et chacun de ces éléments peut être commenté en détail. Dit à Zimrilim, ainsi parle le prophète Apiloum de Shamash, ainsi parle Shamash. Alors, cette adresse double, en quelque sorte, suscite une première remarque. Le prophète Apiloum n'a pas jugé bon de se nommer dans l'adresse de la lettre. Et cet anonymat volontaire était sans doute une façon pour le prophète de s'effacer devant le dieu Shamash, dont il n'était que le porte-parole. Son nom, Atamroum, ne nous est donné que par la lettre de Yassimel. Et dès la deuxième ligne commence le message du dieu. « Je suis le maître du pays, que l'on expédie rapidement à Sippar, ville de vie, un grand trône pour la demeure de ma plénitude, et ta fille que je t'ai réclamée. » Donc Shamash se présente d'emblée comme le maître du pays. Dans le régime polythéiste du Proche-Orient amorite, il y a, on l'a vu, plusieurs divinités qui prétendent régir le cours de l'histoire. On l'a vu en particulier à propos du dieu Adoud Alep dans la fameuse lettre FM738. Ici, Shamash prend la parole d'abord parce qu'il est la divinité principale d'Andarig, où se trouve le prophète. Et il commence par évoquer ce qui lui revient. Et donc, il réclame d'abord qu'on lui envoie un grand trône à Sippar, où se trouvait le principal temple du dieu Shamash. Nous n'avons pas la trace dans les archives de la fabrication d'un tel objet. Et puis, Shamash exige également l'envoi d'une fille de Zimrilim, manifestement pour qu'elle entre dans le cloître de Sippar comme religieuse Naditoum. C'était un phénomène assez courant, de nombreuses princesses babyloniennes ayant connu ce sort. Et on peut se demander si ces deux exigences ne sont pas déjà le signe du désir des Babyloniens de soumettre Andarig à leur hégémonie, ce qui devait arriver peu après. Shamash rappelle alors à Zimrilim que s'il a remporté la victoire, il ne doit pas montrer d'ingratitude envers les dieux qui l'ont soutenu. Et donc, il ne se contente pas d'exiger des offrandes pour lui-même, il intervient également en faveur d'autres dieux, et je reprends la citation. « Présentement, les rois qui t'ont affronté et t'ont pillé sans cesse se sont soumis à ton pouvoir. Maintenant, le bûcher, un terme qu'on ne comprend pas très bien, t'a été donné dans le pays. Or, en ce qui concerne la part consacrée du dieu Adou, à propos de laquelle, par Kanisanoum, avant la défaite des ennemis, je t'avais écrit, cette part consacrée tout entière, réunis-la et qu'on la porte à Alep, au temple d'Addou. Ce dont Kishtidagan, le prophète Apiloum, t'avait parlé, donne-le, afin qu'il, le dieu Addou, t'envoie ce qui sera ton et ta vie. » Donc le premier dieu en faveur duquel Shamash intervient, c'est Adou d'Alep. Et on note au passage que Shamash avait déjà écrit à Zimrilim par l'intermédiaire d'un autre Apiloum, ce prophète se nommant Kanisanoum. Alors, les lignes 19 à 22 sont malheureusement mal conservées. Jean-Marie Durand avait d'abord compris qu'il y était question du lieu d'Agan. Mais il serait étonnant que le lieu où se trouve son temple ne soit pas mentionné, alors que pour Adou, on nous dit qu'il s'agit d'Alep, et vous allez le voir, plus bas, on parle du temple du dieu Nergal à Roubchaloum. Et donc, il vaut mieux suivre, me semble-t-il, la restauration alternative qu'il avait proposée et comprendre qu'il est fait ici mention de l'intervention d'un prophète à Apiloum qui se nommait Kishti Dagan. Donc il n'est pas question des présents à faire au dieu Dagan, il est question d'un nom propre de quelqu'un qui s'appelle Kishti Dagan. La lettre se poursuit ainsi. « Autre chose, Nergal, seigneur de Rupshalum, au cours de la défaite des ennemis, s'est tenu à tes côtés et aux côtés de ton armée. Tout ce que tu lui avais promis, ainsi qu'une grande épée de bronze, fais-le faire et qu'on la porte à Nergal, roi de Rupshalum. » Il s'agit ici d'une figure du dieu des enfers qui est longtemps restée méconnue, mais la documentation s'est accrue ces derniers temps. Rupshalum se trouvait dans la steppe, au sud du Jebel Sinjar, et cette oasis formait la frontière méridionale du royaume d'Andarig. Le don de l'épée à Nergal de Rupshalum a laissé des traces dans les archives de Marie. La fin de la lettre a un contenu de nature encore plus politique. Et autre chose, voici ce que dit Shamash. Hammurabi, roi de Kourdat, a tenu des propos menteurs, et sa main, c'est ailleurs qu'elle se trouve. Ta main le saisira, et dans son pays, tu dois laisser libre cours à un édit de restauration, Andurarum. Présentement, le pays tout entier est donné à ton pouvoir. Lorsque tu prendras la ville et que tu laisseras libre cours à l'édit de restauration, ainsi ta royauté sera éternelle. Alors le contexte, c'est celui de l'hostilité entre deux royaumes voisins, Andarig, où se trouve le prophète, et puis Kourda. Et le dieu promet à Zimrilim, allié d'Andarig, qu'il remportera la victoire sur Hammurabi de Kourda, et en contrepartie, il devra proclamer un édit de justice. Vous n'oubliez pas que Shamash, dieu soleil, est aussi le dieu de la justice, et en l'occurrence, il lui réclame un édit de restauration des biens et des personnes à leur statut initial, et pour des détails sur l'Andurarou, je vous renvoie au cours de l'année dernière. Et la dernière demande de Shamash concerne un autre aspect de l'exercice de la justice, je cite la fin de la lettre, et autre chose, Zimrilim, lieutenant de Dagan et de Haddou, doit écouter cette tablette et envoyer à Rimdiya ceux qui ont un procès, Rimdiya étant à cette époque le remplaçant du roi Atamroum qui était absent. Et nous pouvons maintenant revenir à la lettre de Yassimel par laquelle nous avons commencé le dossier. Nous avons maintenant pris connaissance de la lettre dictée par le prophète et on comprend mieux la procédure inhabituelle qu'il a imposée à Yassimel. Manifestement, le prophète se méfiait du général Mariotte. Il avait peur que ce dernier, effrayé par le contenu du message de Shamash, ne le communique pas à Zimrilim ou bien de manière distordue ou incomplète. Et donc, il exige de Yassimel qu'il lui procure un scribe à qui il puisse dicter la lettre directement. C'est le seul cas où nous soyons sûrs d'avoir les ipsissima verba, les mots mêmes du prophète. Et puis, le prophète remet ensuite la tablette, certainement sous enveloppe, comme c'était la coutume à l'époque, nous l'avons vu, devant témoin à Yassimel, de façon que celui-ci soit contraint de la faire suivre au roi de Marie, sans en connaître le contenu, raison pour laquelle le prophète souhaitait un scribe discret. Et Yassimel s'exécuta, c'est pour cela que nous possédons à la fois la lettre du prophète à Piloum et la lettre du général Mariotte, et même sans connaître les subtilités de la paléographie, vous voyez bien que l'écriture cunéiforme des deux lettres n'est pas exactement identique. Les deux lettres n'ont pas été écrites par la même main. Si vous avez des doutes, vous me faites confiance. Alors, je me suis limité à ces deux figures, Luparum et Atamroum, mais elles sont bien entendu très loin d'épuiser tout le dossier de la prophétie à Marie. La bibliographie est très abondante, mais il est temps de passer au devin. Nous avons déjà eu l'occasion d'étudier un devin, et pas des moindres, lors du cours du 17 février consacré à Ascoudoum. Mais c'était un cas un peu particulier, vous vous rappelez, et donc je voudrais aujourd'hui m'intéresser à des devins ordinaires, si je puis dire. Il faut commencer par souligner une caractéristique essentielle. Quoique leur travail soit de nature éminemment religieuse, ils n'étaient pas rattachés à des temples. Ils travaillaient pour des clients, Et leur rémunération était constituée par les moutons qui leur étaient envoyés de façon qu'ils en examinent les entrailles. Il semble bien que le reste de l'animal leur revenait une fois leur examen effectué. Alors la technique reine à l'époque, c'était ce qu'on appelle l'hépatoscopie, c'est-à-dire l'examen du foie. Au moment où l'on sacrifiait le mouton, on posait une question aux dieux concernant l'avenir d'une personne ou d'un groupe. Et on pensait qu'à ce moment-là, les dieux écrivaient leurs réponses par le biais de signes à la surface du foie de la bête sacrifiée, et c'était le rôle des devins d'interpréter ces signes. En 1988 a été publié un texte de Marie sans parallèle dans toute la documentation disponible sur les activités des devins mésopotamiens. C'est le serment que les devins devaient prêter lorsqu'ils entraient au service du roi de Marie. Je cite ce texte. « Lors de la prise de présage pour Zimrilim, monseigneur, lors d'une extispicine, tout ce qui se produira et que je verrai, ou bien lors d'une prise de présage pour un simple particulier, lors d'une extispicine, tout ce qui se produira et que je verrai, le mauvais présage défavorable, tout ce que je verrai, je ne manquerai pas de le dire à Zimrilim, monseigneur, et je ne le cacherai pas. Le mauvais oracle défavorable qui se produira et que je verrai lors de la prise de présage pour Zimrilim, monseigneur, dans une naissance anormale ou lors d'un phénomène ismoum, je ne le dirai pas à n'importe qui. La parole secrète que Zimrilim, monseigneur, pourra me dire en vue d'une consultation oraculaire ou qu'il pourra dire à un devin, mon collègue, et que je viendrai à entendre, ou bien lors d'une consultation oraculaire dont je constaterai le signe dans la donne d'un devin, mon collègue, je tairai soigneusement cette affaire. » Alors j'ai proposé que ce texte ne reflète pas une situation ponctuelle, mais qu'un tel engagement ait été souscrit par tout devin entrant au service de Zimrilim. Et cet engagement consistait notamment à porter à la connaissance du roi tout mauvais présage qu'il pourrait constater dans une consultation oraculaire d'un particulier éventuellement, ce sont les lignes 1 à 6, et inversement, ne pas divulguer à quiconque tout mauvais présage qu'il pourrait constater dans une consultation oraculaire du roi, ce sont les lignes 7 à 10. Et finalement, le devin s'engageait à ne pas divulguer les sujets sur lesquels le roi souhaitait avoir la réponse des dieux, lignes 11 à 16, puisque en posant une question aux dieux, bien entendu, le roi dévoilait ses futurs plans, en particulier en matière diplomatique ou militaire. Dans la suite du texte, le devin devait refuser de prendre les présages pour des gens qui prépareraient une rébellion, ligne 17 à 21, et dans un cas de ce genre, à avertir le roi. Je cite. L'affaire, par contre, d'un quidam, quel qu'il soit, qui tiendrait des propos hostiles, en voulant que ce ne soit pas connu, voudrait attaquer mon seigneur, et ferait faire des présages en vue d'une mauvaise rébellion ou de l'assassinat de Zimrilim, monseigneur, je ne prendrai en rien les oracles pour ce quidam, quel qu'il soit. D'autre part, le fauteur de mauvaise rébellion contre la vie de Zimrilim, monseigneur, ce qu'il dirait en vue d'une consultation oraculaire à moi-même ou bien à un devin, mon collègue, que j'entendrai ou bien verrai lors d'une consultation oraculaire dans la donne d'un devin, mon collègue, je jure que je ne le cacherai pas, mais que le jour même, je le dirai à Zimrilim, monseigneur, ou le lui écrirai. Je jure de ne pas le lui cacher, ni d'excuser un tel homme. Ensuite, vous avez un passage qui est un peu cassé, et puis vous avez, à la fin, la formule classique dans ce genre de texte, « Tant que je vivrai, j'agirai ainsi ». Voilà pour le cadre général, et nous passons maintenant à un devin particulier qui s'appelait Eripsine. Il se trouve que dans l'été de la première année de règne complète de Zimrilim, on a un groupe de 5 devins qui se livra à une activité particulière, vérifier si le serment que devaient prêter les principaux dignitaires du royaume serait valable. Il s'agissait de Zimridagan, Eripsine, Shamashin-Matim, Inib-Shamash et Dada. On possède des lettres de la plupart d'entre eux, Et c'est le portrait d'Eripsine que je voudrais maintenant dresser. Ce devin est l'auteur de deux lettres qui sont connues depuis longtemps. Ce sont les comptes rendus divinatoires les plus techniques qui ont été édités par Jean Nouguerol, qui s'intéressait beaucoup à la divination, à partir des copies que lui avait communiquées Georges Dessin. L'ensemble de la correspondance d'Eripsine, qui comprend sept lettres, a été édité par Jean-Marie Durand dans ARM 26.1. Et j'ai repris brièvement le commentaire du dossier dans Marie 8 en 1997, parce qu'il fallait changer la lecture d'un toponyme qui apparaît plusieurs fois. On avait lu Sagaratum, en réalité, il faut lire Sapiratum, les deux signes Pi 2 et Ga étant très proches l'un de l'autre. Et mon étude était dévolue à cette île de Sapiratum qui était sur le l'Euphrate, en aval de Marie. Et j'avais rapidement proposé que toutes ces lettres puissent avoir trait à une seule mission au cours de laquelle Eripsine accompagnait en Babylonie une troupe envoyée par Zimri-Lim. Et donc, je voudrais aujourd'hui reprendre ce dossier en détail. La première phase est documentée par la lettre numéro 95. « Dis à mon seigneur, ainsi parle Eripsine, ton serviteur, un serviteur de Menihum m'est arrivé de chez Meptoum en disant « L'armée doit traverser vers Charidan. Maintenant, 60 hommes de troupes ont traversé vers Charidan, que mon seigneur le sache. » Alors, où se trouve Charidan ? Dans Florilegium Marianum 16, Hervé Reculo a pris ses distances par rapport aux conclusions antérieures. Pour lui, Riddan et Charidan font allusion à une même réalité géographique au sud du district de Marie, et une lettre montre qu'on est sur la rive droite. Alors ici, l'emploi du verbe « eberum » ne doit pas entraîner de confusion. Il ne s'agit pas de franchir l'Euphrate à Charidan, et d'ailleurs, la préposition est « ana » vers et non pas « ina » ar. Par ailleurs, on sait que Charidan devrait être identique à la Rindanou néo-assyrienne qu'on localise aux environs d'Abou Kemal, l'actuelle frontière entre la Syrie et l'Irak, à une vingtaine de kilomètres en aval de Marie. Donc voilà la première étape. L'étape suivante se situe à Hanat. C'est une île sur l'Euphrate, aujourd'hui engloutie par le lac du barrage de Hadita, et malheureusement, les fouilles de sauvetage n'ont pas réussi à atteindre les couches du deuxième millénaire avant notre ère, de sorte qu'on doit s'en tenir aux données textuelles. C'était une ville qui avait un temple voué à une déesse qui portait le même nom, Hanat. Et cette étape est documentée par la lettre suivante. « Avant mon départ, Monseigneur m'a donné les instructions suivantes. Gagne Hanat et fais l'interrogation oraculaire à Hanat afin que l'armée aille à Sapiratum. Selon les instructions de Monseigneur, ce jour même, j'ai pris les présages pour Sapiratum, puis il y a une lacune. Un tel m'a écrit en ces termes. En attendant que je vous écrive, l'armée doit rester à Hanat même. Maintenant, donc, l'armée reste à Hanat même. D'autre part, le jour où l'armée est arrivée à Hanat, 50 bédouins se sont débandés depuis Urban en disant « Nous n'avons pas de provisions de route ». Or, Yakun Harari leur avait dit « Je veux bien vous faire la faveur de vous donner du grain ». Voilà ce qu'il leur avait dit, mais ils n'ont pas été d'accord et ils sont partis. Puisque 50 bédouins quittèrent l'armée à Urban avant que celle-ci n'arrive à Hanat, et puisque c'est une fois arrivé à Hanat qu'Eripsine prit les présages pour la prochaine étape, Sapiratum, cette lettre montre clairement que Urban et Sapiratum se trouvaient respectivement en amont et en aval de Hanat. Et on peut par ailleurs montrer que Urban se trouvait en aval de Haradum, qui est sûrement localisé à Hirbet et Dinillé. Rétablir la géographie historique lorsque vous avez des villes le long d'un fleuve, c'est quelque chose qui est plus facile que lorsque vous avez des régions ouvertes. Alors, par la suite, Eripsine est arrivé à Sapiratum, qui est donc sûrement localisé dans l'île de Bijan, et Eripsine aurait pris les présages pour le salut de la ville pour une durée de 5 jours, mais ces présages auraient été défavorables. Ascoudum m'a donné les directives suivantes. Occupe-toi des oracles pour le salut de Sapiratum pour 5 jours. Étant arrivé à Sapiratum, j'ai fait les oracles pour le salut de la ville pour 5 jours, puis il y a une lacune. D'autre part, et puis c'est à nouveau cassé, et à la fin, Monseigneur doit faire attention à mes propos et m'envoyer réponse à ma tablette. Alors vous voyez que la restitution du nom de Sapiratum aux lignes 9 et 10, elle est loin d'être assurée, mais on possède une autre lettre qui montre qu'un séjour à Sapiratum a bel et bien eu lieu et qu'il fut problématique. « Dis à Monseigneur, ainsi parle Eripsine, ton serviteur, les anciens de Sapiratum, petite lacune, m'ont dit ceci, lacune, et puis il faut supposer, je lui ai répondu, Monseigneur, encore une lacune, voilà ce que je lui ai dit. Et lui, tu résideras ici un mois plein. Je lui ai dit, je crains Monseigneur, je ne résiderai point ici. Voilà ce que je lui ai dit. Et la lettre s'achève par cette notation. Sans son aide, j'ai emmené mes moutons et gère de ci, de là, et un tel s'est approché à une demi-lieue de distance. Alors, on n'arrive pas à savoir qui souhaitait qu'Eripsine reste un mois à Sapiratum, mais il est intéressant de voir que le devin se déplaçait avec son propre troupeau de moutons, qui évidemment réduisait au fil des jours à chaque fois qu'il prenait les présages. Après un arrêt à Hanat et un autre à Sapiratum, la troupe arriva ensuite à Yablia, qu'on peut maintenant localiser avec certitude à Al-Judafiya. « Dis à Monseigneur, ainsi parle Eripsine, ton serviteur, l'armée va bien. J'ai pris les présages pour le salut des 200 hommes de troupes qui vont aller avec Meptoum depuis Yablia jusqu'au Katsa pour 15 jours. Les présages que j'ai obtenus sont sains. Lors de ma vérification, les entrailles étaient gonflées. Dada a pris les présages pour le salut des 200 hommes de troupes, pour ses troupes mobiles, pour l'endroit où, et puis on a une lacune, dans sa vérification, le ventre était sombre à gauche comme la pierre Houdouchoum. J'ai brûlé ces présages et je les ai mis sous scellé dans un couffin, je les ai fait porter à Monseigneur. Alors cette lettre est la première du dossier à rentrer dans les détails techniques en décrivant les entrailles du mouton sacrifié, en particulier différents endroits du foie. La tradition assyriologique depuis Nougarol consiste à traduire ces parties du foie avec une majuscule à l'initiale, et on est maintenant arrivé à localiser précisément ces différents endroits. La lettre nous montre par ailleurs que le devin, après une première consultation, ce qu'on appelle « Mahritum Amari », procède à un contre-examen, ce qu'on appelle « Pikitum », et ça signifie qu'un deuxième mouton était sacrifié et ses entrailles examinées. Et la lettre nous apprend par ailleurs qu'Eripsine n'était pas seul. Un autre devin nommé Dada se trouvait alors avec lui, vous vous rappelez qu'il faisait partie des 5 devins qu'on avait mentionnés tout au début de cette enquête. Alors on connaît des paires de devins assez régulièrement, chacun procédaient à une consultation indépendante et les deux comparaient ensuite leurs résultats. Ça permettait d'avoir plus de certitude quant à l'interprétation de la volonté des dieux. Et en l'occurrence, le résultat était sans doute ambigu, d'où la procédure décrite par Eripsine pour la transmission de présages que l'on fait brûler, qu'on met dans un couffin et qu'on expédie. Il y a un deuxième passage où cette façon de faire est décrite, mais on ne sait pas exactement en quoi ça pouvait consister. Au numéro 100 bis, la troupe se trouve à Halhala, en aval de Sippar. Donc on est maintenant dans le royaume de Babylone, et Eripsine continue à tenir le roi au courant. En ce qui concerne la prise de présage concernant le salut de l'armée, à propos de quoi Monseigneur m'a donné des instructions, j'ai traité un agneau Tsupum dans la ville de Halhala, en aval de Sippar. J'ai pris les présages pour le salut de l'armée. Dans ma première interrogation, le regard était là, le chemin était là, la demeure de gauche était fendue en deux, etc. À partir de la ligne 17, lors de ma contre-épreuve, puis il y a une lacune, il y a encore des description de parties de foi, et ça se termine par l'indication « les présages que j'ai obtenus étaient sains ». Donc vous retrouvez ici l'indication que le devin a sacrifié deux moutons, dont il a examiné les entrailles successivement, mais il ne s'arrête pas là, il entreprend une nouvelle consultation avec une nouvelle question. Il s'agit de savoir si l'armée envoyée par Zimrilim à Hammurabi pourra, à la fin de la campagne, rentrer saine et sauve à Mari. Voici la suite de cette lettre. « De rechef, j'ai procédé à une deuxième main, littéralement, une deuxième donne, traduit Jean-Marie Durand, de la façon suivante. Et là, nous avons un exemple de libellé de la question qui était posée aux dieux. L'armée de Monseigneur qu'il a envoyée chez Hammurabi, cette armée, Hammurabi ne la capturera-t-il pas, ne la tuera-t-il pas, ne la fera-t-il pas tuer, ne la tiendra-t-il pas prisonnière d'une prison d'hostilité ou de paix? De même qu'elle est sortie en bon état par la grande porte de Marie, rentrera-t-elle en bonne santé par la grande porte de Marie? J'ai pris les présages. » Et la suite de la lettre décrit les signes obtenus et s'achevait ainsi « Les présages que j'ai obtenus étaient sains, le cœur de Monseigneur ne doit pas s'inquiéter pour son armée. » Au-delà de Khalkhala, quelle était la destination de la troupe qu'Eripsin accompagnait? Nous le savons grâce à une lettre de Zimri Adou. Celui-ci était le chef de l'armée envoyé par Zimrilim à Hammurabi pour l'aider dans son conflit avec le roi de Larsa Rimsin. Et dans une lettre rédigée sous les murs de Larsa qui venait de tomber, Zimri Adou raconte à Zimrilim d'abord comment il ne peut pas se procurer le lapis lazuli que le roi lui avait demandé, vous voyez la séance sur le commerce, et puis la lettre se poursuit ainsi. « Eripsin le devin m'a dit ceci, le roi m'a donné l'ordre suivant, tiens-toi avec les devins babyloniens et envoie-moi le résultat des consultations. » Voilà ce que m'a dit Eripsin, et quand je lui dis à Hammurabi, Hammurabi m'a répondu, s'est approché de moi, j'ai fait faire une seule consultation, mais je n'ai pas recommencé, et je ne ferai plus désormais procéder à d'autres consultations. Voilà ce que Hammurabi m'a répondu. Et la fin de la lettre concerne une autre affaire. Alors ce qui est fabuleux, c'est que cet épisode peut être mis en relation avec une lettre d'Eripsin qui ne comporte pas d'indication de lieu, mais qui se situe au moment où la troupe qui accompagnait Eripsin se trouvait avec l'armée babylonienne. Je cite « Le 2 de Ribirtum, au soir, j'ai pris les présages, présages pour le salut de l'armée, pour un mois de 30 jours et de 30 nuits. Lors de mon premier examen, le regard était là, le chemin était là, etc. À partir de la ligne 20, dans ma vérification, le regard était là, le chemin tombait sur la demeure de gauche, la porte du palais était saine, etc. Et à la ligne 31, le verdict, les présages que j'ai obtenus sont sains pour les jours qu'ils concernent, c'est-à-dire un mois complet. » Donc, alors, et ensuite vous avez la conclusion de la lettre, autre chose, on ne me convoque pas avec les devins de Hammurabi, donc je ne fais point l'interrogation oraculaire avec eux. Voilà pourquoi je n'envoie pas chez Monseigneur de rapport concernant leur extispicine. Et donc vous voyez que la fin du texte est importante. C'est un gros problème lorsque vous avez des contingents alliés qui coopèrent de savoir si les renseignements les plus secrets doivent être partagés. Alors aujourd'hui, le problème, c'est les observations par satellite. À l'époque, c'était les consultations des devins. Et vous voyez ici que c'est chacun pour soi. Donc, l'envoi d'une armée par Zimrilim pour aider Hammurabi à prendre Larsa était jusqu'à présent surtout lu à la lumière des rapports des militaires qui étaient à sa tête, mais désormais, on peut connaître certaines étapes de cette campagne grâce aux lettres expédiées par un des devins qui accompagna une des troupes mariottes jusqu'au sud de l'Irak actuel. Si l'on tente un bilan de la carrière d'Erib Sin, on constate qu'il est connu au début du règne de Zimri-Lim avec quatre autres collègues, grâce à des textes administratifs datés, et puis par la suite, on a uniquement ce lot de sept lettres qui correspond à une mission jusqu'à Larsa en l'an 12 de Zimri-Lim. Eh bien, il ne faut pas s'en étonner, ça signifie simplement que le reste du temps, Erib Sin était auprès de Zimri-Lim et qu'il rendait compte directement par oral au roi de ses consultations oraculaires. Voilà donc différents Shangoum, dont Idin Sin, qui sortent quelque peu de l'ombre des temples dont ils étaient responsables, deux prophètes Apiloum, qui montrent à quel point les dieux intervenaient dans les affaires internationales, et enfin, l'histoire du devin Erib Sin, dont les activités sont surtout connues lorsqu'il opéra loin de Zimri-Lim jusqu'à Larsa. Une fois de plus, on constate à quel point être à proximité de la personne royale conduit à demeurer méconnu des historiens, et c'est ce que, en sens inverse, l'examen de quelques gouverneurs provinciaux confirmera la semaine prochaine. Je vous remercie de votre attention.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr. Les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.